Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, dans notre étude de l'Apocalypse, nous verrons le sort du dragon, de la bête et du faux prophète et le règne de 1000 ans. Beaucoup de passages dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas très familiers. Quand on les lit pour la première fois, on est frappé par les images et symboles fantastiques et on se sent un peu perdu. Aujourd'hui, nous arrivons à un passage qui contient des idées que beaucoup de gens ont entendues, surtout à cause des doctrines des Témoins de Jéhovah, des Adventistes ou de beaucoup de groupes évangéliques. Des idées telles que la bataille d'Armageddon et le règne de 1000 ans. Cela ne veut pas dire forcément que vous comprenez clairement ou correctement le sens de ces termes. Au contraire, il peut y avoir encore plus de confusion dans vos esprits à ces sujets. Essayons donc de mettre ces passages que nous allons lire en Apocalypse, chapitres 19 et 20, dans leur contexte. Le contexte global est la persécution de l'Église du Christ par l'Empire romain dans les premiers siècles de notre ère. Les empereurs romains voulaient qu'on les adore comme des dieux. Les chrétiens étaient les seuls à refuser de le faire. Et le gouvernement romain a cherché à détruire le christianisme. L'Apocalypse fut donné pour encourager les chrétiens à la persévérance et la fidélité, et pour les assurer que Dieu punirait, détruirait même le persécuteur et vengerait son peuple. Dans les images et symboles employés dans les visions du livre, l'Empire est symbolisé par une grande bête rouge, et la religion impériale, c'est-à-dire le culte des empereurs, est symbolisée par une deuxième bête, appelée ailleurs le faux prophète, ayant l'aspect d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Quant au dragon, il représente Satan, qui donnait son pouvoir à l'Empire dans sa guerre contre le Christ. Au chapitre 16, nous avons vu des esprits impurs en forme de grenouilles qui sortaient de la bouche du dragon et des deux bêtes. Ces esprits devaient aller vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Aujourd'hui, nous arrivons, en Apocalypse 19, à la description de cette bataille, si on peut l'appeler ainsi, et à sa suite. L'apôtre Jean, l'auteur humain de ce livre inspiré de Dieu, commence par présenter les deux armées qui s'affrontent. Nous commençons notre lecture en Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est donc Jésus-Christ, le vrai objet d'adoration, qui apparaît dans toute sa gloire de triomphateur. Il est monté sur un cheval blanc, signe de sa victoire. Il s'appelle fidèle et véritable, ce qui rappelle aux chrétiens qu'ils n'ont pas eu tort de mettre leur confiance en lui. Avec ses yeux de feu, Il pénètre même les secrets des cœurs. Aucun crime ne lui reste caché. Étant le roi des rois, il est couronné de plusieurs diadèmes. Personne ne possède l'autorité de roi universel, si ce n'est Jésus seul. Le Christ est vêtu d'un manteau trempé de sang. Certains pensent qu'il s'agit de son propre sang, par lequel il donne la victoire aux saints. Ce contexte pourtant présente Jésus non comme celui qui donne sa vie pour sauver du péché, mais celui qui punit les persécuteurs de son peuple. L'image nous renvoie à Ésaïe 63, versets 1 à 4, où Dieu est représenté comme un guerrier qui revient du pays d'Édom, où il vient de massacrer les malfaiteurs. C'est le sang des ennemis vaincus qui a jailli sur ses vêtements. Comme Jésus avait promis aux fidèles en Apocalypse 2, versets 26 et 27, les chrétiens participent ici à ces activités royales et justicières. Ce sont ceux-là, vêtus de fin lin, blanc et pur, qui s'avancent avec lui. Aucun ennemi ne peut se tenir devant lui, car une épée tranchante sort de sa bouche. Comme dans d'autres versets de l'Apocalypse, son jugement contre l'Empire romain est comparé à l'écrasement des raisins lors d'une vendange. Voilà donc un côté, le Christ avec ses disciples fidèles. L'armée opposante est présentée au verset 19. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. En Apocalypse 16, versets 13 à 16, le dragon, la bête et le faux prophète avaient rassemblé les rois de la terre pour une dernière bataille décisive contre l'agneau et les siens à Armageddon. Rappelez-vous que nous sommes toujours en train de voir en détail l'action qui fut représentée par le versement des sept coupes de colère. Il ne s'agit pas d'une autre bataille que celle d'Armageddon. Il est ici question du récit détaillé de cette bataille. En fait, il n'y a guère eu de bataille du tout. La puissance incomparable du Christ est telle que ses ennemis n'ont même pas pu présenter de résistance. Voilà la description au verset 20 et 21. Et la bête fut prise, et ainsi que le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée sortant de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Rome est en ruine. Le culte de son empereur a disparu. Les deux alliés de Satan dans la persécution de l'Église sont détruits. Un seul ennemi reste, le dragon lui-même. Celui qui est la source de tous les maux de l'Église n'a pas échappé. Il est tout simplement gardé pour être détruit en dernier lieu. Son cas sera réglé dans les versets que nous lirons maintenant. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Ce passage est le sujet d'un grand nombre de théories. L'une des plus populaires prétend que ce passage parle de l'établissement d'un royaume terrestre qui durera littéralement pour 1000 ans. Jésus, ayant ressuscité les justes, régnera avec les saints à partir de Jérusalem. À la fin de cette période, les injustes seront ressuscités et une guerre entre les serviteurs du Christ et ceux du diable aura lieu, après quoi viendra le dernier jugement. En d'autres termes, après avoir vu 19 chapitres de langage symbolique, on cherche à interpréter celui-ci littéralement. En essayant de faire ainsi, on ajoute plusieurs idées qui ne se trouvent pas dans ce passage. Par exemple, rien dans ces versets ne parle d'un retour de Jésus, d'une résurrection physique ou d'un règne sur la terre. En plus, on néglige la vérité que, selon de nombreux passages bibliques, Jésus est déjà en train de régner sur le monde et qu'il doit ressusciter tous les morts et détruire le monde lors de son retour. Jean 5, 28 et 29 et 2 Pierre 3, versets 5 à 12. Que dit le passage en fait? D'abord, nous voyons un ange descendre du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main, ce qui exprime le contrôle que le ciel exerce sur les puissances du mal. Il saisit le dragon et le lie pour 1000 ans. Verset 2. Comme la plupart des chiffres de l'Apocalypse, celui-ci exprime une idée et non pas une durée chronologique à prendre à la lettre. Le chiffre 1000 a été employé déjà dans l'Apocalypse pour signifier la plénitude, la totalité, ce qui est complet. Lier Satan pendant 1000 ans, c'est lui enlever complètement les pouvoirs qu'il exerçait pendant la persécution romaine. Il ne pourrait plus séduire les nations par la puissance romaine. En rapport avec l'enchaînement du dragon pendant 1000 ans, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus durant la persécution de Rome ont le privilège de régner avec leur Seigneur. Ce règne se situe non sur la terre, mais au ciel, où se trouvent tous les trônes dans l'Apocalypse. Que ce règne soit partagé non pas par tous les saints, mais par ceux qui traversèrent fidèlement les persécutions romaines, se voit par les références à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Ce règne se rapporte à la chute de Rome, et non pas à la fin du monde. Ceux qui cherchent dans ce passage un règne terrestre du Christ suppriment ces faits. L'exaltation des martyrs, la justification de la cause pour laquelle ils sont morts, la satisfaction qu'ils éprouvent en voyant que la justice leur a été faite est appelée la première résurrection. Il y aura une seule résurrection corporelle des morts et elle aura lieu pour tous lors du deuxième avènement du Christ, Jean 5, 28 et 29. La première résurrection est une manière de se référer au triomphe des martyrs par la chute de Rome. La seconde et la résurrection générale des morts au retour de Christ. Ceux qui ont part à la première n'ont pas besoin de craindre la seconde mort.
Christ est vraiment